Bienvenue, c'est la rentrée du Magéco. Vous avez peut-être, vous, encore des images dans la tête, la mer, la campagne, la montagne. Moi, ce samedi, première émission, je repense et je repense à cette pub de 1985 pour du fromage ail et fines herbes. Oui, les moins de 40 ans ne peuvent pas savoir, donc je vous raconte. On voyait une maison s'écrouler, pièce par pièce, lentement mais sûrement. Et au milieu, un homme en smoking, hors du temps, dégustait sa tartine, le degré ultime du « jusque-là, tout va bien ». Eh bien aujourd'hui, cet homme, c'est la France. Et pour la France, on peut même dire que là, pour l'instant, ça va bien. Les entreprises investissent, merci le CICE. Les ménages consomment, merci les mesures pouvoir d'achat, merci les gilets jaunes. La croissance française, elle existe et elle résiste. Mais autour alors ? Autour, l'Italie est l'homme malade de l'Europe, l'Allemagne est contaminée par la guerre commerciale, quant au Royaume-Uni, c'est le compte à rebours avant le choc. La récession, elle est inéluctable. C'est ce que nous dit l'ancien président de la BCE, Jean-Claude Trichet, et la récession, il la voit venir des États-Unis. Hier, dans la matinale de France Inter, on a eu l'économiste Daniel Cohen qui, lui, la voyait plutôt venir d'Europe. Alors le pire n'est pas encore écrit, mais voilà où nous en sommes ce 31 août 2019. Dans les champs, on vit la sécheresse, mais dans le champ éco, on voit arriver la boule de neige. Quelle taille fera-t-elle ?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Un petit parfum d'apocalypse, on va en parler. Nous sommes tous très heureux de vous retrouver. L'économie comme nous la vivons, nous en parlons ensemble jusqu'à 10h. Accompagné du réalisateur Coy Nguyen, de l'attaché de production Valentin Pérez et à la technique Théo Gomard nous accompagne. Avec les piliers également, par ordre d'apparition, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Premier pilier, bonjour.
Premier pilier, bonjour. Deuxième pilier, Emmanuel Le Chypre, BFM Business.
Pilier bonjour. Droit ou pilier gauche
hein. Je crois que les auditeurs ont leur opinion, mais vous nous surprenez chaque semaine.
Bonjour à tous.
Le pire n'est pas encore écrit, Christian. Il y a encore beaucoup d'inconnus dans ce scénario. La récession inéluctable, l'Europe qui s'effrite, l'économie européenne.
Économistes ont prévu 5 des 3 dernières récessions, donc on va faire attention avec les prévisions des économistes. Non. Ce qui est en train de changer en Europe, c'est le débat budgétaire. On a l'Allemagne, on a les Pays-Bas qui jusqu'à présent étaient vraiment des faucons, hein, pour des gens qui ne veulent absolument pas utiliser l'arme budgétaire pour soutenir l'économie. Et là, surprise, les Pays-Bas nous font une relance budgétaire. Le ministre de l'économie allemand commence à dire que il y a des marges de manœuvre.
Il est un peu tout
utiliser.
Seul quand même, Altmaier.
Oui, d'accord, ouais. Mais ça change quand même dans le discours. Donc peut-être qu'enfin les États européens vont comprendre qu'il y a une arme budgétaire et que c'est en ce moment qu'il faut l'utiliser, surtout quand on emprunte à 0%.
Emmanuel Le Chypre, pour vous aussi, le parfum d'apocalypse, c'est un peu exagéré.
Mais totalement. C'est bien beau de faire de la numérologie. Tous les économistes là, qui vous disent oui, l'année prochaine, ce sera la récession. Tout ça, c'est de la numérologie. C'est parce que, il n'y a pas eu de récession depuis longtemps. Donc, il va y avoir forcément une récession. Mais la récession, il faut qu'elle vienne de quelque part. Or, quand vous regardez les grands risques, la guerre commerciale, je vous rappelle que ça ne représente aux États-Unis que 0,5% de la consommation des ménages. Donc, ça ne viendra pas de là. La géopolitique, ça n'a d'influence que quand ça a de l'influence sur le pétrole. Regardez ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Les prix du pétrole, ils décolle pas. Et puis, les dettes, moi je veux bien, mais tant que vous êtes, il faut bien, ça c'est très important à dire, tant que vous êtes dans un monde,
c'est très important,
tant que vous êtes dans un monde dans lequel les taux d'intérêt sont inférieurs au taux de croissance, vous ne risquez rien sur la planète financière. Crise sociale, moi je veux bien, mais dans la plupart des pays de nos voisins, ceux qui vont soi-disant si mal, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tout ça, il y a quasiment plus de chômeurs. Donc non, ça ralentit, oui, mais on n'est pas au bord de l'apocalypse, non.
Bon alors, nous ce matin, débat sur le changement de pied de l'exécutif sur la réforme des retraites. Et on verra jusqu'où va ce changement de pied, à votre avis, Emmanuel Christian. On se retrouve dans une poignée de secondes. Quel avenir pour le capitalisme ? Le système est-il en train de se repenser ? Par exemple, on entend que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ont d'autres aspirations, qu'ils bousculent les entreprises. Eh bien, vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Les entreprises, en tout cas, elles bougent. Elles annoncent, par exemple, qu'elles se mobilisent contre les inégalités, pour le climat. Eh bien, on en parle ce matin avec un patron français d'envergure mondiale. Il est à la tête d'un géant du luxe, avec entre autres les marques Gucci, Saint-Laurent. Il vient de présenter au G7, c'était en début de semaine, une coalition de grandes maisons, de marques qui s'engagent à réduire leur empreinte carbone. Cet invité, c'est François-Henri Pinault, le patron de Kering. Nous avons rendez-vous à 9h45. Et puis, ce sera le moment de retrouver Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Alors, ma vie au boulot, Le boulot, nous dites-vous ce matin, est une arme contre les violences faites aux femmes.
Oui, mardi commence le Grenelle des violences conjugales et je vais vous dire à quel point le travail est capital pour protéger ces femmes.
On se retrouve juste avant 10h, mais tout de suite, quinquennat, acte 2, la méthode change sur la réforme des retraites. La méthode est après.
Lundi 26 août 2019.
Le système est à l'équilibre.
Agnès Buzyn,
autour de 64 ans,
ministre de la Santé et des Solidarités.
Est-ce que cet équilibre du système doit se traduire en âge pivot? C'est aujourd'hui dans la question de la gouvernance. Quand il y aura une gouvernance autour des retraites où les partenaires sociaux auront leur mot à dire, ils auront leur mot à dire sur un certain nombre d'items, dont l'âge pivot.
Ce que je veux, pour le dire en des termes très simples,
Emmanuel Macron,
c'est qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Parce que si vous avez un accord sur la durée de cotisation, là, quand vous rentrez tard dans la vie professionnelle, vous finissez plus tard, mais généralement c'est que vous êtes rentré tard parce que vous avez fait des études. Et quand vous commencez tôt, bah, vous cotisez plus longtemps, mais vous partez plus tôt. Ça me semble plus juste.
On est quand même un peu surpris.
Geoffroy Roux de Bézieux.
D'abord sur la méthode.
Président du MEDEF.
Et là, alors, je sais bien qu'on est en 5e République. Le président, au détour d'un interview, rechamboule un peu tout. Sur le fond, il faut dire la vérité. Il faut faire les deux. On a une impasse financière en 2025 et il faudra augmenter le nombre d'annuités qui doit passer à 43 années. Mais on fera pas l'économie de l'âge et c'est mentir par omission français et dire le contraire.
Le président de la République a dit la même chose que monsieur Delevoye.
Philippe Martinez.
Ah, sur le fond.
Secrétaire général de la CGT.
Il n'a pas changé, c'est ce que vous dites.
Ah non, c'est la même chose.
Ah bon?
Bah oui. Plus de trimestres, ça veut dire rester plus longtemps au boulot pour avoir une pension au niveau à peu près correct pour pouvoir en vivre.
Le changement de pied.
Oui. Raymond Soubi.
De Emmanuel Macron.
Expert en politique sociale.
Je crois que ce n'est pas vraiment un changement de pied. Parce qu'au fond, c'est l'une des méthodes archi-classiques pour retarder l'âge de la retraite. Et qui consiste à augmenter le nombre des années de cotisation. Ce qui aboutit en fait à retarder l'âge de la retraite.
Il y a un élément clé.
Éric Woerth.
C'est tout bête, hein, c'est l'âge.
Député LR.
Parce qu'à un moment donné, bah, vous n'avez pas le droit de partir en retraite avant tel âge, donc vous ne décaissez pas.
Président de la Commission des Finances.
Les étudiants, quand on se qualifie, la France a besoin de jeunes qualifiés, ont au fond le droit de partir à la retraite à un âge. Après, ils le font ou ils le font pas, il y a des décotes ou pas, mais l'âge unique de départ à la retraite, l'âge d'entrée dans les droits, c'est celui-là qu'il fallait bouger. Et on ne fait pas une réforme uniquement parce que la CFDT pense autrement.
La réforme des retraites, celle qui unifierait tous les régimes, vous le savez, ça doit être la grande réforme de cette deuxième moitié de quinquennat. Et juste avant l'été, on avait commencé à comprendre ce que pouvait être cette idée de l'âge pivot à 64 ans, en plus de l'âge légal à 62 ans. Mais cette semaine, Emmanuel Macron a surpris tout le monde. Il préfère, dit-il, un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Là, ça commence à devenir flou. Alors, Emmanuel Le Chypre, ça a l'air technique, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ?
Bon, on va déjà partir de ce qu'est le système actuel. Hein. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite, c'est 62 ans. L'âge à partir duquel vous pouvez faire valoir vos droits à la retraite, que vous devez cotiser au moins 41 ans et demi si vous voulez avoir cette retraite à taux plein, ou alors à partir en retraite après 67 ans. Et votre pension, elle est calculée, si vous êtes dans le privé, sur vos 25 meilleures années de carrière, ou sur les 6 derniers mois si vous êtes dans l'administration. La réforme de Levoye, telle qu'elle était prévue avant le revirement d'Emmanuel Macron, ça consistait à dire on change complètement de logique. En fait, vous allez accumuler des points, vous allez cotiser pour accumuler des points tout au long de votre carrière. Plus vous travaillez, plus vous cotisez. Et le jour de votre départ en retraite, eh ben tout ça, tous ceux qui auront le même nombre de points auront la même retraite, sachant que l'âge légal, ça restait 62 ans. Mais pour inciter à travailler plus longtemps, il y avait ce qu'on appelait un âge pivot à 64 ans. En gros, avant 64 ans, vous aviez une décote sur votre retraite. Après, vous aviez un bonus.
Bon, c'est une façon de reculer l'âge sans le dire.
Oui, mais non, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce système, vous n'aviez plus de notion de durée de cotisation, vous n'aviez plus de notion de calcul sur les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois. Donc c'était un système beaucoup plus simple. Et là, en revenant sur cette idée de seuil des 64 ans et en disant « on va reprendre en compte » la durée de le nombre de trimestres au cours desquels vous avez cotisé, et ben finalement Emmanuel Macron il revient presque en partie au système actuel puisque on rompt la logique qu'on voulait universelle de même nombre de points, même retraite pour tous les salariés, puisque par exemple deux salariés qui auront accumulé le même nombre de points, s'ils n'ont pas cotisé la même durée, le même nombre de trimestres, eh bien ils n'auront pas forcément la même retraite. Donc c'est quand même un retour à un système intermédiaire entre le système plutôt innovant qu'avait prévu Jean-Paul Delevoye et le système actuel.
Christian Chavagneux, donc on avait une réforme qu'on disait en effet systémique, c'est-à-dire on changeait plus quelques petits paramètres, la pension, la cotisation, ou l'âge, voilà, on changeait tout un système, mais là, Emmanuel Macron nous dit Emmanuel Le Chypre, revient à quelque chose d'hybride qui n'a pas de sens en fait par rapport à la réforme systémique promise.
La réforme, elle était dès l'origine à la fois systémique et paramétrique, pour reprendre les mots du gouvernement. Systémique, ça change tout sur la façon d'organiser, la façon dont on va pouvoir toucher notre retraite, Emmanuel vient d'expliquer. Paramétrique, c'est juste on change un paramètre pour être sûr qu'on soit toujours à l'équilibre. Or, le fondement même, qu'on prenne un âge 64 ans ou qu'on prenne une durée 41 ans qui est en train de monter jusqu'à 43 ans, ça revient au même sur le fond. Pourquoi ? Parce que le gouvernement pense que on va avoir, à juste titre, à peu près un déficit vers 2025 des caisses de retraite de moins d'un demi-point de PIB.
Ça fait combien ça, Christian ?
Ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Donc le gouvernement nous dit, oh là là, c'est terrible, on a 0,4 point de pourcentage de PIB de déficit, il faut absolument qu'on change tout. Non, il n'y avait rien à changer. Donc ça, le fait qu'on prenne un âge ou une durée, c'est pas remis en cause. Deuxième gros problème avec la méthode Macron, Macron nous dit, de toute façon, aujourd'hui, l'ensemble des dépenses de retraite, c'est l'équivalent de 14% du PIB. Et demain, en dépit du fait qu'on va avoir de plus en plus de personnes à la retraite, ce sera toujours 14% du PIB. Alors le PIB, il va augmenter un petit peu, il y aura un peu plus d'argent, mais beaucoup moins vite que le nombre de retraités. Ça veut dire quoi ? Que quel que soit le paramètre que vous utilisez, l'âge ou la durée, il y aura moins d'argent pour plus de retraités. Donc il y aura moins de retraite pour tout le monde. Et puis enfin, dernier point, comme l'a dit Emmanuel, le régime ne sera plus universel. Les gens qui sont nés dans les années 60 ou 70, ils vont avoir travaillé tant d'années, ça va leur donner une retraite. Les pauvres qui vont travailler dans les années, enfin qui sont nés dans les années 80-90, il va falloir qu'ils travaillent plus longtemps pour avoir la même retraite. Ou s'ils ont travaillé le même nombre d'années, eh ben ils auront moins de retraite. Pourquoi ? Parce que le point fondamental de la retraite Macron, c'est pas que ce soit un âge pivot ou que ce soit une durée, c'est que cet âge ou cette durée vont évoluer en fonction de la démographie. C'est ça le caractère central. Il va falloir de toute façon, c'était 64 ans pour les gens qui étaient nés dans les années 60, ça montait à 65 ans pour ceux qui étaient nés dans les années 70, à 66 ans pour ceux qui étaient nés dans les années 80. Ça augmente, enfin la contrainte, l'objectif que vous devez atteindre pour avoir droit à votre retraite est sans cesse repoussé. Et ça c'est vraiment complètement inégalitaire. Pour les pauvres qui ont des carrières hachées, ça va être très très difficile d'aller jusqu'au bout. Et en plus, rappelons quand même que la moitié des gens qui prennent leur retraite aujourd'hui ne viennent pas du monde du travail. Ils sont au RSA, ouais. Ils sont au chômage, ils dépendent de l'argent de leur conjoint. Et alors attention, hein, si vous avez un an de moins par rapport aux 64 ans, ou si au lieu des 43 ans, vous avez travaillé 42 ans ou 40 ans, vous avez une décote qui vous massacre. Donc plus vous allongez la
durée. On parlait de
5%. Dans le rapport de Levoix, on dit 5-6, et le rapport de Levoix dit si on met notre réforme en cours, c'est plutôt 9-10. Donc vous faites massacrer de 10% parce que vous perdez un an. Vous rendez compte un peu ? Vous faites complètement massacrer. Et ça, cette logique-là, que vous preniez un âge pivot ou une durée, elle reste là.
Emmanuel Le Chypre.
La réforme de Levoix, elle avait quand même certains avantages par rapport au système actuel. C'était un système qui était quand même plus simple, puisque vous aviez plus cette notion de durée de cotisation, par exemple. C'était quand même une réforme qui était plus juste que le système actuel, notamment parce que vous aviez quand même une meilleure prise en compte des carrières hachées, hein, des gens qui s'arrêtent. Il y avait une meilleure, une plus grande solidarité, je trouve, envers les problématiques des femmes, hein, les congés maternité, etc. Ça, c'était davantage pris en compte. Et puis, pour les plus modestes, hein, il y avait quand même un certain nombre de paliers qui étaient fixés pour que les plus modestes touchent une meilleure retraite. Et d'ailleurs, si vous prenez effectivement dans cette enveloppe qui est censée ne pas changer en proportion du PIB, vous aviez les plus modestes qui devaient recevoir 23% du total des cotisations et plus de 19% comme
oui, mais
aujourd'hui.
Ça, c'est un faux calcul.
Mais il y avait quand même un problème dans cette idée de fixer un âge pivot à 64 ans. Et ça, c'est à mon avis une des raisons qui a fait reculer Emmanuel Macron, c'est que de facto, vous favorisiez les gens qui avaient des carrières plus longues. En gros, c'était favorable aux cadres, qui eux travaillent de toute façon plus longtemps et peuvent travailler plus longtemps. Et c'était défavorable aux gens qui sont rentrés très tôt dans la vie active, qui sont peu diplômés, parce que vous les obligiez de toute façon à travailler plus longtemps.
Non, dans la réforme de Levoix, si vous êtes rentré sur le marché du travail avant 20 ans, de toute façon, vous pouvez vous arrêter à 60 ans. Donc ça marche pas.
Entre 20 ans et il y avait quand même des gens.
Ouais, oui, entre 20 ans et 22 ans.
Avec la réforme de Levoix, on était obligé d'aller plus loin. Là, c'est ce qu'a vu Emmanuel Macron, c'est que ça crée quand même une injustice entre les salariés les plus modestes et les cadres. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a reculé et qu'il a réintroduit cette notion de durée de cotisation.
En tous les cas, vous êtes en train de parler de la réforme de Levoix à l'imparfait pour vous, Emmanuel Le Chypre.
Enfin, non.
Est-ce que ce changement de pied, cette préférence soudain affichée par Emmanuel Macron, est-ce que c'est de la méthode? Est-ce que c'est du signal politique? Est-ce que le fait que là, tout à coup, on a l'impression que le calendrier de la réforme s'allonge, est-ce qu'on est en train d'enterrer la réforme ou au contraire, est-ce qu'à votre avis, votre sentiment, c'est que l'exécutif veut aller jusqu'à cette réforme?
Non, l'exécutif veut aller jusqu'au bout, mais Emmanuel Macron, il a fallu un petit peu de temps, c'est quand même longtemps qu'il est en politique, il comprend que quand on veut vraiment réformer, il faut avoir des alliés, il faut que la société accepte les transformations. Donc on nous fait croire aujourd'hui que ça y est, le gouvernement, qui est Emmanuel Macron, le président en particulier, qui ne voulait pas prendre en compte les corps intermédiaires, les syndicats, pour parler clairement, aujourd'hui, a une main tendue. Non, attendez, il faut arrêter ce baratin général.
À la CFDT, il faut finir la
oui,
phrase.
Oui, au syndicat en général, à la CFDT en particulier.
L'âge était le chiffon rouge.
Oui, pour lequel l'âge était le chiffon rouge. Mais attendez, le paramètre clé, celui qui va faire qu'on va savoir combien on va toucher à notre retraite, la valeur du point, s'il y a un point, le fait de savoir si c'est à partir de 62, 63, 64 ou si c'est l'âge 43, 44, 45 ans, c'est l'État qui va le déterminer. On n'est pas dans un système paritaire où les syndicats et l'État, chacun a pendant. C'est l'État qui va dire le paramètre clé, celui qui va dire combien nous on va toucher quand on sera à la retraite, c'est l'État. Donc ça, c'est pas une ouverture aux partenaires sociaux. Et puis, je pourrais vous donner plein d'exemples, par exemple, dans l'éducation nationale, qui montrent que l'État tape sur les partenaires sociaux. Donc c'est pas une ouverture générale d'Emmanuel Macron vers les syndicats, c'est juste une tactique politique pour essayer de faire passer sa réforme qui est injuste.
Au-delà des retraites, ou non, Emmanuel?
Non, mais le vrai sujet, c'est que ce qui intéresse Emmanuel Macron, c'est pas tellement l'équilibre financier. On a vu qu'il est fluctuant, que les prévisions sont fluctuantes. Ce qui intéresse Emmanuel Macron, c'est de rentrer dans l'histoire comme l'homme qui aura supprimé
les régimes spéciaux.
Ouais. Voilà. Et il pense, ça c'est du calcul politique effectivement, il pense que cet âge pivot de 64 ans était quelque chose qui risquait de fédérer les mécontentements et de créer une espèce de coalition contre cette réforme. C'est le marché de Brive-la-Gaillarde chez Georges Brassens. Vous vous rappelez de cette chanson où vous avez toutes les ménagères qui sont sur le marché, qui se tapent sur la figure, et quand la police arrive, tout le monde se ligue pour taper sur la police. Et ben c'est ça, en supprimant ce chiffon rouge de l'âge pivot, il lui reste quand même, alors certes, il tend la main au syndicat, mais c'est surtout qu'il va maintenant devoir s'attaquer au régime spécial les uns après les autres.
Mais il va y avoir encore, même dans la réforme de Levoix, il y a encore des régimes spéciaux.
Bien sûr. Oui, mais il y en a quand même une partie qui devait disparaître, et donc il va falloir négocier avec eux. Sauf que quand vous allez négocier un par un avec les régimes spéciaux, il y en a très peu qui feront descendre les Français dans la rue. Parce que je pense pas que s'attaquer aux régimes spéciaux des avocats, ça fera descendre les Français dans la rue. S'attaquer aux régimes spéciaux des conducteurs de la SNCF, ça fera pas forcément descendre les Français dans la rue. Et je pense que son calcul, il est là. Je pense qu'il renonce à cette proposition de l'âge pivot pour mieux faire passer sa réforme des régimes spéciaux, qui est vraiment ce qui l'intéresse.
Dans le calendrier, on va discuter, sans doute, c'est un scénario possible. On va discuter, en effet, de chaque thématique, mois après mois, et ce qui permettra de déminer les dossiers les uns après les autres. Vous voyez aussi les choses comme ça, Christian?
Je sais pas, on verra.
C'est un scénario.
Je fais pas de numérologie, comme dirait Emmanuel, politique. Et là, on est vraiment dans la politique, pas dans l'économie.
Ce qui est juste marrant, c'est d'aller voir sur le site quand même officiel de Jean-Paul Delevoye de la réforme des retraites, où la première phrase que vous trouvez sur le site, c'est puisqu'on vous dit que maintenant il faut faire de la concertation, il vous dit quand même plus de 18 mois de concertation et de dialogue avec les partenaires sociaux, les citoyens et les acteurs de la retraite ont nourri les préconisations du haut-commissaire à la réforme.
Oui, on s'en est aperçu, on a fait des reportages dans l'émission, absolument. Au-delà des retraites, est-ce qu'on peut dire un mot, là il nous reste 2 minutes, cette rentrée elle marque donc l'acte 2, on va avoir le premier budget post-gilet jaune. Est-ce que d'après les premiers éléments qu'on a, et on en a quelques-uns quand même, Christian, vous voyez une inflexion? Est-ce que il y a plus de jambes gauches là?
Oui, bien sûr. Regardez, le président est devenu complètement écologiste. Il signe le CETA dans lequel il y a une remise en cause de l'accord de Paris qui est pas du tout écolo. Il permet l'exploitation de mines d'or en Guyane et il coupe dans l'aide à l'isolation des bâtiments. Donc, il n'est pas devenu plus écolo. Est-ce qu'il est devenu moins inégalitaire? Pas du tout. Est-ce qu'on a remis en cause le fait qu'il est le président des riches et qu'il a vraiment, on commence à voir les chiffres maintenant, diminué substantiellement les impôts des plus riches? Rien du tout. Est-ce qu'il a parlé d'augmenter les minima sociaux? Rien du tout. Est-ce qu'il continue à détricoter l'État social? Oui. Le chômage, il a tapé sur les chômeurs et maintenant les retraités. Donc c'est le même président Macron.
Emmanuel Le Chipre.
On voit bien qu'il a raté complètement ses deux premières rentrées en matière de justice sociale. 2017, catastrophique, on n'y revient pas. La baisse des APL d'un côté, la baisse de, enfin,
les impôts pour les régions,
enfin, etc. D'accord. 2018, pareil. Il essaye de corriger le tir. Il voit pas que la hausse de la fiscalité sur le carburant va déclencher les gilets jaunes. Donc, il veut absolument corriger ça. Après, il a un argument quand même à faire valoir. Je trouve, c'est quand même la baisse du chômage. C'est-à-dire, vous avez un chômage qui baisse trimestre après trimestre, alors que la croissance est faible. Et donc, moi, je pense qu'un des grands arguments qu'il peut faire valoir aujourd'hui, c'est de dire, attendez, je vous ai demandé des efforts, mais regardez, ça marche, ça fait baisser le chômage. Et donc, il va pas corriger sa politique. Ça reste une politique de l'offre. Bruno Le Maire l'a redit au MEDEF cette semaine.
Tout à fait.
Il y aura pas de grand soir fiscal pour les uns, pour les autres. Par contre, oui, alors on va
aller
chercher.
Il y a des baisses d'impôts.
Il y a quelques milliards à trouver pour boucler le budget. Donc, on va aller chercher un petit peu sur les niches fiscales aux entreprises. On va aller chercher un petit peu sur des aides sociales, etc. Mais ça va être des coups de rabot.
Bruno Le Maire a dit, faut que le capitalisme français change. Je deviens plus social. Et là, on ne voit pas vraiment par où ça va passer.
Les patrons sont d'accord. Christian, c'était le thème de la rentrée du MEDEF à Longchamp.
Social washing.
Et on va en parler un peu plus loin dans l'émission. Voilà pour l'actualité française. Ensuite, évidemment, l'actualité internationale forte de cette rentrée, c'est au Royaume-Uni. Boris Johnson qui décide de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, 2 semaines avant le Brexit. Coup de poker, fureur, incertitude.
My job is to serve you. The people. Because if there is one point we politicians need to remember, it is that the people are our bosses.
Voilà, la population, c'est are our bosses, nous dit Bojo. Le peuple, c'est nos boss. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Antoine, vous êtes le correspondant de France Inter Outre-Manche. Comment réagissent les milieux d'affaires, les chefs d'entreprise, tous ceux qui font l'économie du pays? Est-ce que ça remet un coup d'accélérateur aux préparatifs d'avant-Brexit?
En fait, ils ont surtout les deux pieds sur le frein, les entrepreneurs. Parce que si on se fie à ce que disent les analystes de JP Morgan, il y a désormais 35% de chances que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne sans accord. En termes de risque économique, ça commence à faire beaucoup. Résultat, tous les patrons qui avaient la possibilité de prendre des mesures pour atténuer les effets du Brexit l'ont déjà fait. Ils ont loué des locaux, augmenté les stocks, délocalisé. Les autres essaient de limiter la casse et gèlent la trésorerie. C'est la plus forte baisse des investissements depuis la crise de 2008. La Chambre de commerce britannique parle d'une aggravation de la morosité. La Lloyds Bank, dans son enquête mensuelle, mesure pour la première fois en 3 mois une chute de la confiance des chefs d'entreprise. La Confédération patronale lance un appel au gouvernement en demandant à Boris Johnson et à son équipe de redoubler d'efforts pour obtenir un accord avec Bruxelles. Mais plusieurs économistes, en parallèle, commencent à dire que le pays pourrait rapidement entrer en récession. Le gouvernement et la Banque d'Angleterre ont déjà, ces 2 dernières années, utilisé beaucoup de leviers pour éviter que l'économie dévisse. Les taux d'intérêt, notamment, sont déjà très bas. Et à mesure qu'on se rapproche du 31 octobre et du bord de la falaise, Alexandra, on risque, dans les semaines qui viennent, de sentir de plus en plus le parfum des embruns et du guano.
Antoine Gignot avec nous depuis Londres. Merci Antoine, y compris pour l'image. Emmanuel Le Chipre, la falaise, dit Antoine Gignot. Le Brexit, le 31 octobre, ça va être un choc pour eux, pour nous.
Non, c'est pas un choc le Brexit. C'est là-dessus qu'on s'est trompé. On pensait qu'après le vote, l'effondrement financier, tout ça. Non, c'est pas un choc, c'est un cancer. C'est-à-dire, c'est pas un AVC, c'est pas une crise cardiaque. Le Brexit, c'est un cancer qui va ronger l'économie de ce pays, qui commence à la ronger déjà depuis 2 ans et qui va continuer à la ronger. Donc pour eux, c'est dramatique. Et pour nous, on voit déjà les premiers effets. C'est-à-dire, demander à tous les agents immobiliers de Paris, vous voyez commencer. Je peux vous dire qu'une des raisons pour lesquelles le prix du mètre carré à Paris vient de passer les 10 000 euros, c'est qu'il y a une vraie demande de la part des Britanniques qui s'enfuient.
Ouais, mais enfin, c'est notre excédent commercial, il n'y a pas que l'immobilier dans la vie, Emmanuel.
Mais l'excédent commercial, on va le garder, puisque de toute façon, ce qu'ils nous achètent, ils ne le fabriquent pas, et réciproquement.
Bien, nous vérifierons, on va avoir le temps.
Ah bah, faites venir les grands exportateurs de vin, vous verrez.
À venir dans la prochaine demi-heure, en tout cas, notre invité, c'est François-Henri Pinault, le PDG de Kering, qui vient de mettre sur les rails son Fashion Pact pour réduire l'impact environnemental de l'industrie de la mode. On a de plus en plus d'entreprises qui annoncent qu'elles s'engagent pour la planète contre les inégalités. Est-ce que le capitalisme, c'est ce que disait le MEDEF, est en train de se réinventer? Jusqu'où? On va nous aussi questionner tout ça. Mais d'abord, qu'est-ce qui pousse le système à changer? qui le bouscule. Ça n'a pas été les baby-boomers, ça n'a pas été non plus ma génération, la génération X. En revanche, aujourd'hui, entend-on, les jeunes sont en train de changer l'entreprise. Eh bien, notre reporter, Anaëlle Verzo, qui elle est une vieille génération Y, est allée découvrir ce pouvoir des millennials, les 18-35 ans.
Allô, Roxane Loulet, bonjour, c'est Anaëlle Verzo à France Inter. Je vous appelais juste pour vous dire que j'étais en bas dans le hall d'accueil. Ah bah voilà. Je suis Roxane Loulet et je suis responsable des relations médias pour PwC, France et Afrique francophone.
Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'entreprise ?
Alors, PwC, c'est un cabinet de conseil et d'audit. Donc en France, on est 5000 et la moyenne d'âge est de 29 ans.
Et alors là, donc, on se trouve dans le hall d'accueil de votre entreprise. Et là, il y a des espèces de bancs avec une petite table et ça s'appelle le Digit Hall. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Le Digit Hall, c'est un peu sur le même concept que les Apple Store. Voilà, donc ça parle à la jeune génération. C'est notre service de maintenance informatique.
C'est un open space.
C'est tout à fait ça, ouais. Comme sur la mode des bars Apple.
Là, on passe les portes et on arrive dans un jardin.
Donc là, aujourd'hui, il fait beau, on a de la chance.
Donc sur la gauche, il y a des tables de ping-pong. À droite, il y a des tables où des personnes sont installées.
Ça fait un peu aussi penser à un campus, des espaces où...
Mais ils ont le temps de jouer au ping-pong, là. Je vois deux personnes qui jouent au ping-pong.
Ouais, mais en fait, c'est en libre service. Chacun organise un peu son temps comme il veut. Et s'il veut faire une pause avec du ping-pong, c'est possible, en fait.
Et là, effectivement, on voit des personnes plutôt jeunes en âge.
Ouais.
Ah, il y a une dame là d'une cinquantaine d'années, une exception.
Oui, alors on a quand même aussi des gens qui sont plus âgés, les équipes sont mélangées en fait, et c'est ça aussi qu'on favorise. Ça a été assez impulsé par notre management, on fait du reverse mentoring aussi. Que soit le jeune ou le moins jeune en fait peut apporter des choses. Donc on a des programmes où il y a des jeunes qui coachent des moins jeunes, par exemple sur les réseaux sociaux, sur des sujets divers et variés dans lesquels on peut avoir une compétence.
Ah oui, d'accord.
Ouais, voilà.
Vous savez qu'on n'arrête pas l'écho, nous aussi, on est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, on fait du reverse mentoring sans le savoir. Il y a des générations X qui se font coacher pour apprendre les réseaux sociaux. Bref, nous voilà à la lisière de Paris, au siège français de PwC, qui fait partie des Big Four. Ce sont les quatre plus grands groupes d'audit financier de la planète. Moyenne d'âge, 29 ans, vous l'avez entendu. Alors pour attirer et garder ses salariés, cette entreprise a décidé de se transformer, d'écouter leurs attentes. Est-ce que c'est une exception ? Quelles entreprises, quels jeunes sont concernés ? Voilà le reportage d'Anaëlle Verzo, qui a donc fini sa partie de ping-pong près du Digit Hall, mais qui n'est pas au bout de ses surprises.
Alors, la Roxane, c'est le PW Cool.
Ouais,
c'est écrit sur la porte. Hein,
ouais, on dit Pee Wee Cool.
Ah, Pee Wee Cool.
Pee Wee Cool. Et c'est la salle de sieste, en fait.
La salle de sieste.
Voilà.
Et là, bon, aucun rapport, mais on a retrouvé Anne-Florence. Anne-Florence, vous travaillez ici depuis combien de temps ?
Ça fait 6 ans maintenant. Alors, je suis consultante, en fait, en transformation digitale.
Et Anne-Florence, vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans.
Ah, voilà, il y a quelqu'un qui sort de la Pee Wee Cool. Il n'a pas l'air très réveillé d'ailleurs.
Non, c'est normal. J'ai l'impression qu'en fait, qu'on a adapté l'entreprise par rapport à nos usages et nos attentes. Moi-même et puis même les collaborateurs que j'ai, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, en fait, on est en attente aussi de nous permettre d'avoir une empreinte en fait, positive sur l'environnement et pas de consommer à outrance. Par exemple, à la cantine, maintenant, avant, on avait des gobelets en plastique. Maintenant, on a des gobelets en carton et on nous distribue des gourdes. C'est important pour les collaborateurs de se sentir dans une entreprise qui va mettre des choses en œuvre pour être plus écologique.
Les jeunes poussent les entreprises à être de plus en plus respectueuses de l'environnement. Il y a moins d'un an, fin 2018, un collectif d'étudiants des grandes écoles a même lancé un manifeste dans lequel ils s'engagent à ne pas travailler pour les industries polluantes et au contraire à apporter leur force de travail pour les entreprises engagées dans la transition écologique. Plus de responsabilités sociales et écologiques, moins de hiérarchie, amélioration des conditions de travail, autant de demandes des jeunes que les chefs d'entreprise ne peuvent plus ignorer. Bernard Guénier est le PDG de PwC.
L'enjeu fondamental d'une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise de la connaissance, c'est d'attirer les meilleurs, de les faire rester avec tous les services possibles. Mais ça implique des modes de fonctionnement.
C'est-à-dire les modes de collaboration, de fonctionnement nouveaux, quels sont-ils ?
Plus personne n'a un bureau particulier, on a des règles du jeu où on s'empêche de faire un ensemble de choses, on a supprimé le papier.
Et ça, c'était une demande de vos salariés ?
Ah oui, ça c'est sûr. Les jeunes nous challengent tout le temps en fait.
Ils vous challenge. Ah oui, carrément.
Ben, bien sûr. Ce qui compte pour eux, c'est d'avoir un niveau de dialogue au bon niveau, qu'on ne leur impose pas des choses qu'ils ne comprennent pas. Et on a besoin de leur expliquer pourquoi on prend une décision.
Est-ce que vos jeunes employés, vos jeunes salariés, vous parlent beaucoup d'écologie? Est-ce que ça fait partie de leurs préoccupations? Et du coup, est-ce que vous vous dites, il faut qu'on fasse un effort sur l'écologie, il faut qu'on fasse attention à ça, parce que les salariés m'en parlent?
Moi, c'est très clair, la conscience des jeunes sur l'environnement est de plus en plus importante. Je pense que c'est une tendance, mais de fond, mais majeure, qui oblige les entreprises à s'adapter. Il n'y a pas de.
Qu'est-ce qu'il y a à faire pour une entreprise, alors, comme la vôtre, par exemple?
L'empreinte écologique de nos bâtiments. Comment j'ai des bâtiments qui limitent leur empreinte écologique? Et deux, nos déplacements. Donc, comment on fait pour avoir des déplacements qui.
Moins polluants.
La problématique de l'avion, la problématique du train, la problématique de la voiture, des transports collectifs. On a encore beaucoup de progrès, je pense que c'est l'enjeu pour toutes les entreprises.
Un enjeu pour toutes les entreprises, c'est la conviction de Bernard Guénier. Mais c'est aussi exactement la conclusion des économistes d'une école de commerce, l'EDEC, où j'ai rencontré la spécialiste jeunesse, Manuelle Malot.
Quatrième étage.
On y va. Alors à l'EDEC, vous avez produit une étude, comment les jeunes générations de diplômés veulent transformer l'entreprise. C'est une étude récente qui date du mois de mai 2019, dans laquelle vous nous dites 61% des jeunes générations jugent que les entreprises devront beaucoup se transformer dans les 5 prochaines années.
Oui, alors ce chiffre-là, effectivement, est bien la traduction, et on l'observe à l'EDEC, de jeunes qui ont eu l'habitude finalement d'être des influenceurs. Ils se sentent capables de transformer l'entreprise, d'autant plus que les entreprises aujourd'hui ne parviennent pas toujours à recruter les jeunes diplômés qu'ils souhaiteraient. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur en Europe et même dans le monde n'arrive pas à fournir suffisamment de diplômés pour les besoins de l'économie mondiale.
Oh, et c'est incroyable.
C'est incroyable et ce sera vrai probablement jusqu'en 2030. Donc on est dans une situation qui est favorable aux jeunes diplômés, donc ça les encourage sans doute à être encore plus influenceurs.
Alors là, dans votre étude, vous répondez à cette question. Quels sont les 3 principaux critères de choix d'une entreprise pour y travailler?
Les jeunes nous disent la diversité des collaborateurs est un élément de choix pour 60% d'entre eux, mais aussi, et ça vient en deuxième élément, et ça c'est complètement nouveau depuis 3 ans, le respect des principes du développement durable et de la RSE.
Et comment vous voyez l'avenir des entreprises et de la façon dont elles répondent du coup à ces attentes des jeunes? Vous pensez que ça va transformer radicalement l'organisation des entreprises?
Oui, je pense que les entreprises vont se transformer beaucoup plus vite qu'on imagine dans les grandes entreprises. Et finalement, grâce aux réseaux sociaux, une entreprise qui afficherait plein de bonne volonté et pour lequel ce serait uniquement de l'affichage dans un rapport d'activité ou simplement dans une communication de recrutement bien pensée, et qui ne le mettrait pas en œuvre, se verrait finalement sanctionné très vite.
Par les réseaux sociaux, hein, c'est tout
ça. Par les réseaux sociaux, absolument, par l'affichage, par des sites qui aujourd'hui font partager l'expérience des jeunes sur leur premier emploi et sur leur entreprise. Donc tout se sait, et finalement, cette transparence conduira les entreprises très vite à mettre en œuvre ce qu'elles affichent aujourd'hui, peut-être uniquement en communication de recrutement.
Pour Manuelle Malot, les entreprises poussées par les jeunes seraient en train de vivre un bouleversement. Mais jusqu'où peut-on généraliser l'étude de l'EDEC? À la CFDT, Inès Minin est secrétaire nationale en charge de la jeunesse. Est-ce que selon vous, les entreprises répondent à l'attente de tous les jeunes ou de certains jeunes seulement?
Clairement, les entreprises, mais elles le font par rapport à des besoins en compétences et en talents qu'elles doivent attirer. Donc elles vont regarder plutôt des jeunes diplômés de grandes écoles. Quand on parle de jeunes moins diplômés ou alors un peu plus salariés et intermédiaires, on va voir moins d'entreprises faire ce type d'effort. Mais eux-mêmes vont pas avoir de grosses attentes vis-à-vis de l'entreprise. Ils vont être moins à interpeller l'entreprise sur la responsabilité sociale, sur son engagement environnemental.
Souvent, et pourquoi?
Mais parce qu'ils ont l'impression que l'entreprise ne s'investit pas sur eux. Parce qu'ils se disent, moins je fais de vagues, mieux ça sera. Un jeune qui est plus dans une petite entreprise et qui a moins de diplômes, qui va être plus dans une situation d'emploi intermédiaire, employé, déjà, il aura peut-être eu du mal à trouver cet emploi et son principal objectif, c'est de le garder, de le conserver. Donc, il ne va pas avoir d'attente plus forte sur ses enjeux écologiques, de participation à la société et de finalité du rôle de son entreprise. Donc, la révolution, elle n'est pas encore faite.
Les jeunes changent-ils l'entreprise? C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Allez, on continue à observer le changement des priorités que nous annoncent les entreprises. Par exemple, avant-hier, 55 groupes français qui s'engagent à investir pour le climat, 73 milliards d'euros d'ici 2023. En début de semaine, au G7, ce sont les plus grandes marques de la mode et du textile qui ont annoncé une coalition pour moins polluer. À la tête de ce qui s'appelle donc un Fashion Pact, on trouve le PDG de Kering, c'est donc le numéro 2 mondial du luxe. François-Henri Pinault nous a accordé un entretien. Bonjour François-Henri Pinault.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous exprimez très rarement dans les médias. Il y a quelques jours, annonçant la coalition de 32 grandes entreprises de la mode et du textile pour l'environnement, dans votre discours, vous avez eu cette phrase « Les jeunes consommateurs nous mettent la barre plus haut ». Est-ce que ce sont les jeunes qui sont en train de vous réveiller ?
Oui, alors c'est les jeunes aussi dans notre entreprise. C'est la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail et la génération de consommateurs aussi. Il y a cette particularité aujourd'hui sur le marché de la mode et en particulier sur le luxe. On a une part grandissante de la consommation qui se fait sur des classes d'âge plus jeunes que par le passé, notamment sur les moins de 35 ans. Et donc qui représentaient 20-25% il y a encore une dizaine d'années, qui sont aujourd'hui sur des marques comme Gucci à presque 60%. Saint Laurent c'est pareil, Balenciaga c'est pareil. Donc on a aujourd'hui effectivement une clientèle et des collaborateurs très jeunes qui sont extrêmement exigeants sur les sujets de responsabilité sociale, responsabilité environnementale.
Ils sont capables de ne plus acheter si l'entreprise ne leur dit pas qu'elle est respectueuse de l'environnement ? Ces jeunes ?
Oui, ou si l'entreprise les trompe. Il y a aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il y a une sincérité des entreprises qui est absolument nécessaire. Vouloir faire du marketing, faire du greenwashing, qu'on appelle ça, c'est suicidaire aujourd'hui. C'est suicidaire. Donc, il vaut mieux rien dire, rien faire, que de vouloir dire des choses qu'on ne ferait pas.
Alors justement, qu'allez-vous faire ? L'industrie du textile et de la mode, c'est une des plus polluantes de la planète. On dit que c'est la deuxième plus polluante. Ça passe de la culture du coton, il y a le transport, il y a aussi les microfibres plastiques, la teinture des vêtements. Vous, François-Henri Pinault, vous avez fait signer ensemble des entreprises comme Adidas, Nike, Chanel, Zara, H&M, Versace, Gap et bien sûr les entreprises de votre groupe.
Marque, oui.
En premier lieu, Gucci. Que voulez-vous faire ? Quels sont les engagements ?
Écoutez, effectivement, c'est une industrie qui est très polluante. Elle a cette particularité, c'est qu'elle est très polluante sur son amont. C'est-à-dire, c'est pas forcément dans le périmètre juridique de nos filiales, mais c'est au niveau de la culture du coton, c'est au niveau de l'élevage des bovins qui nous fournissent nos peaux, par exemple. Et donc, pour pouvoir influer sur cette empreinte carbone, encore faut-il pouvoir travailler et remonter jusqu'aux fermes d'élevage ou aux fermes de culture avec lesquelles on travaille indirectement. Donc c'est vraiment ça. Et alors, le deuxième aspect qui est très important dans ce Fashion Pack, c'est que ces 32 entreprises sont toutes déjà très actives. Elles font beaucoup, beaucoup de choses. Mais force est de reconnaître que la croissance économique aujourd'hui annule tous ces efforts-là. C'est pas suffisant. Et donc, on a une nécessité, c'est en ça que je crois que la coalition peut avoir un impact important. Si on arrive à travailler ensemble sur les mêmes objectifs, en même temps et avec les mêmes ambitions, on peut avoir un impact beaucoup plus fort sur cette empreinte carbone de l'industrie textile.
Je suis sûre que vous avez entendu les réactions des ONG. Tout à l'heure, vous disiez, le greenwashing, ça n'est plus possible en 2019. Les ONG, elles disent, on a regardé ce Fashion Pact, il y a peu d'objectifs chiffrés, il n'y a pas de contraintes. Et finalement, vous venez de vous-même d'en parler, le modèle économique, il change pas. La production de vêtements, de chaussures va continuer à exploser. En quoi, là, c'est un point de bascule, ce Fashion Pact ?
Parce que on va justement sur nos ressources. Encore une fois, la pollution vient de nos ressources. Nos ressources en matières premières. Si demain on a cette capacité à tracer nos ressources, par exemple, on parle beaucoup du Brésil et de l'Amazonie en ce moment. Si demain je suis capable de dire je n'approvisionne pas de peaux venant d'animaux qui sont élevés sur des zones de déforestation, on va faire bouger les choses. Donc la traçabilité est un élément très important. Encore une fois, toutes ces entreprises le font par conviction, d'abord personnel du dirigeant et par conviction de ces entreprises-là.
Mais pas d'objectifs chiffrés et pas de contraintes.
Mais bien sûr qu'il y a des objectifs chiffrés. C'est les objectifs scientifiques qui ont été définis par les accords de Paris. On va passer, par exemple, et encore une fois, les horizons sont les horizons maximum. Pour moi, j'ai bien l'intention d'essayer de faire les choses avant ces horizons-là. Mais on est, par exemple, sur l'utilisation d'énergie renouvelable à 100% dans toutes nos opérations industrielles à l'horizon 2030. On est sur la réduction de notre empreinte carbone, la neutralité carbone complète à 2050. C'est quand même des choses très importantes. Donc, réduction de notre empreinte carbone, passage aux énergies renouvelables et ce qui ne pourra pas être réduit en termes d'empreinte carbone, compensation totale par achat de crédit carbone. Donc, on a des objectifs très, très concrets. Et encore une fois, personne n'oblige les entreprises à venir. On le fait parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut que l'on fasse. Et pour moi, c'est à force de loi. Et si, une loi aujourd'hui, vouloir légiférer, c'est national pour commencer. Une législation internationale, ça va prendre 15 ans. On n'a pas le temps.
L'économie et l'écologie, c'est compatible ?
Évidemment, sinon on va à la catastrophe. Bien sûr que ça devra être compatible, mais il faut repenser la façon dont on dirige, dont on organise nos entreprises.
Alors repenser plus largement, justement. Alors au dernier G7, en début de semaine, on a eu cette coalition que vous avez menée pour l'environnement. Il y a aussi eu une autre coalition menée par sous la houlette du patron de Danone, vous êtes signataire, coalition pour une croissance inclusive contre les inégalités. Et puis il y a 10 jours, aux États-Unis, business américain, ça va de Apple à Amazon à JP Morgan, la Business Roundtable dit « on repense nos priorités, la seule priorité aux actionnaires, c'est fini ». Est-ce qu'il est en train de se passer, à votre avis, quelque chose dans le capitalisme mondial aujourd'hui ?
Oui, encore une fois, il y a une prise de conscience générationnelle aussi du rôle des entreprises et des responsabilités des entreprises. Et ces générations-là sont celles qui sont en train de diriger les entreprises aussi. On ne peut pas dire que les générations sont en train d'évoluer dans leur prise de conscience environnementale et sociale et les entreprises non, parce que c'est quand même ces générations-là qui dirigent les entreprises. Donc il y a effectivement une évolution des mentalités. Ce qui s'est passé aux États-Unis est très important parce que c'est quand même le pays, comme l'a dit Emmanuel Faber ou Milton Friedman,
le patron de Danone,
avait défini l'objectif ultime comme la rémunération des actionnaires. D'avoir ces grandes entreprises américaines qui signent cet accord l'intérêt des salariés, l'intérêt des parties prenantes est au même niveau que l'intérêt des actionnaires, c'est une avancée dans le contexte américain énorme.
Énorme, et en même temps, si on regarde la grande photo, cet été on a eu l'explosion des dividendes, on a toujours des actionnaires qui attendent de la croissance des entreprises à court terme. Vous-même, ça n'est pas un secret, vous avez reçu en 2018 un bonus de plus de 18 millions d'euros parce que vous avez propulsé votre groupe. Comment croire aujourd'hui que le capitalisme est vraiment en train de se repenser et qu'on n'est pas seulement dans une séquence d'éléments de langage ?
Parce que le capitalisme n'est pas suicidaire. Encore une fois, on a cette responsabilité de pérenniser nos entreprises. On ne peut pas continuer à avancer avec des façons de faire qui font qu'on va scier la branche sur laquelle on est assise.
Et vous voyez bien qu'il y a des objectifs financiers qui ne bougent pas.
Alors, il y a le système financier. Et effectivement, les grandes institutions financières, aujourd'hui, jugent les entreprises. Il y a une pression des marchés financiers sur les entreprises cotées, donc les grandes entreprises, énorme, très court-termiste, sur des critères purement financiers. Et une des façons de faire évoluer les choses encore plus vite, c'est que justement ces critères liés aux grandes institutions financières qui investissent dans les entreprises évoluent vers des critères qui incluent des critères environnementaux et des critères sociaux.
C'est le cas pour vous ?
Alors, en particulier, on a été la première entreprise au monde à publier en 2014 un compte d'exploitation environnementale consolidé sur une méthodologie qu'on a mis au point avec des grandes institutions internationales pour montrer qu'effectivement, si on inclut dans nos coûts de production toutes les ressources naturelles qu'on ne paie pas aujourd'hui, eh bien, nos résultats ne sont pas du tout les mêmes. Et que c'est aussi une manière de mesurer les progrès qu'on fait chaque année. Et ça, moi j'appelle à ce qu'on impose, par exemple, ce compte d'exploitation environnementale aux grandes entreprises cotées pour qu'on puisse mesurer aussi dans leurs exploitations financières l'impact environnemental de ces entreprises-là et les progrès qu'elles font. Et vous savez, si on arrivait à convaincre les 20 plus grands investisseurs mondiaux d'intégrer des critères environnementaux en plus des simples critères financiers, je vous promets qu'on ferait bouger les choses beaucoup plus vite.
On parle là du capitalisme qui est en train de se repenser, des entreprises qui avancent, vous dites qu'il y a une contrainte morale, on ne peut plus le diriger comme avant, mais est-ce qu'au fond les entreprises n'ont pas aussi peur de ce qu'on a vu par exemple en France avec les gilets jaunes, ou qu'on a vu aux États-Unis également avec le 1%, est-ce qu'elles n'ont pas peur de la colère des peuples qui se traduirait dans les urnes et qui pourrait se traduire, vous parliez de législation, par des lois, par des régulations beaucoup plus strictes pour les entreprises.
D'ailleurs ça se terminera comme ça, il y aura des régulations, mais les entreprises, ce n'est pas des entités qui sont à part, c'est des communautés d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble. Vous devez leur donner une vision, leur donner des valeurs qui correspondent à ce qu'ils considèrent être les valeurs qui sont les leurs.
Dernière question sur le sujet, avant de passer à autre chose. Lorsque, en avril, on a eu des gilets jaunes qui sont indignés que les grandes entreprises, les milliardaires, vous avez promis 100 millions pour Notre-Dame, se mobilisent pour la construction d'un monument et pas contre les inégalités ou pas assez. Vous avez compris ça ?
J'ai compris, je l'ai entendu en tout cas. Vous savez, on est dans un pays qui a un modèle social extraordinaire. Le rôle de l'État, la protection des plus modestes, la sécurité, la santé, l'éducation, c'est vraiment les fonctions régaliennes de l'État français. C'est pas aux individus privés, aux entreprises. Et donc l'État, pour assurer ces fonctions-là, définit son modèle social, définit son modèle de ressources, et notamment son modèle fiscal. Quand il y arrive un phénomène extraordinaire comme cet incendie qui a touché tout le monde, est-ce que c'est à l'État et donc à tout le monde de supporter la cause de ça quand certains individus peuvent soulager cette situation? C'est comme ça que j'ai réagi. On en a les moyens.
La question est plus sur pourquoi réagir. Voilà, la critique était vous vous mobilisez pour Notre-Dame et pas contre les inégalités.
Mais les inégalités, c'est tous les jours, au travers de notre entreprise et de ce qu'on fait, on essaye de gérer les inégalités. Ce n'est pas à moi de définir le modèle social français quand même.
François-Henri Pinault, votre regard de patron mondial, vous avez 95% de vos ventes qui se font en dehors de France. Sur la situation aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore épargné, vous, le domaine du luxe, par la guerre commerciale États-Unis-Chine?
Écoutez, pour l'instant, oui, puisque toutes nos productions sont soit faites en France, soit en Italie, dans une très, 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 très large proportion. Donc, pour l'instant, les sanctions qui sont prises d'un côté et d'autre ne touchent pas les produits de luxe. Vous avez vu les discussions sur la taxe GAFA française. Alors, apparemment, un accord serait envisagé. Mais là, on pouvait craindre et on pourrait craindre, s'il n'y avait pas d'accord sur ça, que les États-Unis commencent à prendre des mesures. Alors, ils ont parlé du vin français. Les produits de luxe français pourraient suivre aussi. Donc, pour l'instant, on est épargné, mais il faut être prudent, il faut être vigilant. Oui.
François-Henri Pinault, le PDG de Kering, merci d'avoir été sur France Inter.
Bon, merci, au revoir.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, on parle encore de ce que peuvent les entreprises. Mardi prochain commence le Grenelle des violences conjugales et vous nous dites que le travail est aussi un moyen de lutter contre ce fléau.
Absolument, on a longtemps considéré que ces violences, qui sont surtout faites aux femmes, relevaient de la sphère privée. Ce qui se passe à la maison ne doit pas franchir la porte du boulot. Ça change. Heureusement, l'Organisation internationale du travail a adopté en juin une convention pour lutter contre les violences et le harcèlement au travail. Mais ce texte protège aussi les victimes de violences conjugales en agissant sur le lieu de travail. Pour échapper à leur conjoint, les femmes doivent pouvoir changer de poste ou de zone géographique, avoir des horaires flexibles, une assistance gratuite, des congés payés. Aux Philippines et en Nouvelle-Zélande, c'est le cas. Les victimes de violences ont droit à 10 jours de congés payés. C'est précieux pour trouver un hébergement, entamer des démarches judiciaires ou divorcer. En Italie, l'indemnisation peut atteindre 3 mois. Au Canada, 5 jours de congés sont prévus. C'est pareil en Australie, mais là, ce sont des congés sans solde, ce qui est un frein pour beaucoup de femmes. Chez nous, on attend que cette convention internationale soit traduite en droit français.
Sandrine, pourquoi est-ce que c'est si important d'impliquer le lieu de travail dans cette lutte contre les violences conjugales?
D'abord parce que le travail n'est pas forcément un lieu où les personnes sont en sécurité. Au Royaume-Uni, une étude a montré qu'un tiers des meurtres conjugaux sont commis sur le lieu de travail. C'est le premier endroit où le conjoint violent recherche sa victime. Il sait qu'elle ne va pas quitter son boulot parce qu'elle risquerait d'être licenciée. Et justement, le travail est essentiel pour parler à des personnes qui peuvent intervenir, mais aussi pour garder son indépendance financière. Or, parmi les femmes qui ont appelé le 3919 de Violence Femmes Info, la moitié seulement ont un emploi et 55% disposent réellement de leur salaire. Les employeurs ne peuvent pas non plus ignorer que ces violences entraînent des perturbations au travail, de l'absentéisme. Selon une autre étude menée en Belgique, les trois quarts des victimes affirment que cela a affecter leur travail. Il faut donc former tout le monde au sujet, les collègues, les élus du personnel, les responsables hiérarchiques, les médecins du travail. Les grosses entreprises sont les premières à commencer ce travail de sensibilisation. Des accords signés avec les syndicats devraient suivre, comme à La Poste, qui aide les victimes à se reloger ou à travailler dans une autre commune. Mais les entreprises ne peuvent pas tout. La révolution passera par une action plus large des pouvoirs publics et évidemment par des moyens financiers à la hauteur de l'enjeu.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.